qu'on s'est pas assez fait expliquer pourquoi qu'on est en Afghanistan. C'est, on comprend très bien les enjeux, c'est parce qu'on s'y oppose radicalement.
Les massacres que les soldats onisiens ont commis contre le peuple haïtien, surtout le peuple et des bidonvilles.
Sécurité. Ce qui arrive, c'est que ça permet au gouvernement canadien de détenir quelqu'un sans charge, sans accès à la preuve.
On oublie souvent les questions de base qui définissent ce conflit. Ce conflit, c'est avant tout un conflit sur la terre.
Bonjour, bon matin, vous êtes sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM et les ondes sur les ondes prennent place en bas à gauche avec Blandine et Maude. Aujourd'hui au programme, nous recevons Philippe Marchand de l'Université populaire qui va nous expliquer en quoi consiste l'Université populaire et nous parler de la programmation de la prochaine année. Ensuite, on va vous parler du réseau de la Commission populaire et du forum « Quelle sécurité, notre sécurité » qui est organisé en février 2011. Et enfin, un reportage sur la syndicalisation des couche-tard avec une entrevue avec Jean Lortie de la CSN et ça sera suivi de l'Anti-Hebdo. Restez avec nous.
Comme annoncé, nous sommes rejoints en studio par Philippe Marchand. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Alors, tu nous viens pour nous parler de l'Université populaire, un très joli nom qui a dû être utilisé plusieurs fois à travers l'histoire, mais alors...
Oui.
Qu'est-ce que l'Université populaire en 2010-2011?
Alors, l'UPOP Montréal, c'est un organisme à but non lucratif. C'est inspiré directement par ce qui se fait beaucoup en Europe dans le mouvement des UP. C'est donc de l'éducation populaire. On offre des cours à saveur critique en même temps que les sessions académiques classiques, donc l'automne et l'hiver. On offre des cours. La dernière session, on avait 5 cours. Cette session qui s'en vient, on a 7 cours. Fait que, c'est des cours, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. C'est libre, les gens de tous les âges peuvent venir assister à ces cours-là, réfléchir en commun et voilà.
Et donc, d'où ça vient, si j'ai cru entendre que ça avait rapport avec ces grandes affiches que je voyais à l'UQAM dans le temps de la nuit de la philosophie, qui était juste une nuit par année?
Oui, avec une grosse poule jaune, voilà.
C'est ça,
c'est ces affiches qui ont fait jaser. Oui, en fait, c'est le projet de UPOP Montréal, c'est la fusion de deux équipes. D'une part, la nuit de la philosophie, donc cette fameuse grosse poule jaune. La nuit de la philosophie, c'est un événement annuel de 24 heures. C'est donc beaucoup d'énergie à mettre pour 24 heures d'activité. Il y avait 200 activités qui se passaient, donc 10-15 de front à l'heure. C'était quand même beaucoup d'énergie à mettre pour ça. Ça a duré pendant 4 ans. Et donc, une partie de l'équipe provient de ce projet-là et l'autre partie vient de l'UPAM, qui est l'Université populaire à Montréal, qui avait été fondée durant la grève étudiante à l'UQAM en 2007 et qui a fait quelques événements sporadiques ici et là par la suite. Mais les deux équipes se connaissaient et avaient envie de fonder quelque quelque chose de plus permanent à Montréal, qui s'inscrive dans la durée aussi, qui soit pas juste une espèce de blitz à certains moments, mais qui ouvre plus longtemps et qui sorte aussi l'université. C'était aussi surtout ça le but, c'est d'aller investir des cafés, d'aller dans des salles où les gens sont peut-être pas habitués d'aller pour faire des réflexions de cet ordre-là ou avoir des cours. Fait que voilà, c'était l'idée de sortir, de démocratiser le truc, puis d'ouvrir aussi, parce que la philosophie, l'UPAM, c'était beaucoup des gens du milieu académique, donc collégial, universitaire, certains professeurs aussi. Mais là, on ouvre et il y a vraiment une grande pluralité de gens qui peuvent venir de tous les âges, de peut-être pas de 7, mais donc 17 à 77 ans, disons.
Puis pour nous donner quelques exemples, quels étaient les types de cours qui étaient offerts à l'automne, puis quel public peut-être ils ont attiré, ou si tu peux nous faire une petite description de ce que tu nommes?
Oui, absolument. On avait 5 cours, donc un cours qui était un cours d'introduction au cinéma, qui était donné à la Cinémathèque québécoise. Ça allait surtout chercher des gens qui étaient intéressés par le cinéma, qui avaient envie de connaître des titres, des incontournables de films à regarder dans sa vie. Donc voilà, ça c'était le cours de cinéma. On avait un cours sur les dynamiques du désir, qui était donné par une chargée de cours de l'UQAM, Marie-Pierre Boucher. Ça parlait bon des traditions du désir, de la post-pornographie, du travail du sexe. On a parlé beaucoup de ce genre de choses là. C'était dans un centre communautaire. On avait aussi un cours qui s'appelait démocratie espace public. Donc on a réfléchi à c'était quoi l'espace public de façon conceptuelle, mais aussi dans les médias, physiquement aussi dans l'urbanisme. C'est quoi l'espace public, puis comment quelle place ça prend et tout. On avait un cours qui a beaucoup suscité l'œil médiatique, qui s'appelait Hockey et philosophie, qui s'est déroulé à la Grande Bibliothèque. C'était donc le professeur qui a donné ce cours-là a monté une collection aux presses universitaires de Laval, je crois. Et donc il fait toujours des bouquins sur philosophie et quelque chose. Et donc fait hockey, il en a fait un sur l'humour, il en a fait un je crois sur la musique. Et donc voilà, c'était des réflexions sur le hockey, ce sport national du Québec. Ben ça veut dire quoi exactement? Il y en a qui le considèrent comme une religion. Qu'est-ce qu'on entend par là? On a parlé de la violence, on a parlé des salaires, on a parlé de tout ce qui entoure et ce qui permet de réfléchir sur le hockey, mais de façon philosophique. C'est vraiment intéressant. Et le dernier cours, c'était démystifier l'économie, qui était un très gros cours. Habituellement, les séances sont aux 2 semaines. Ce cours-là, c'était à chaque semaine pendant 11 semaines. Et on a invité tout plein de gens pour nous parler de l'économie, mais dans une façon qu'on est peut-être moins habitué. Fait qu'on a parlé des traditions d'échange dans les tribus maoris. On a parlé de Marx, on a parlé de Keynes, du néolibéralisme. On a parlé du rôle de l'État dans l'économie mondiale. On a parlé d'écologie et de fiscalité, bon, de paquet de choses. Ce cours-là, c'est celui qui a attiré le plus de monde. On avait 50-60 personnes à chaque semaine, fait que ça a été vraiment vraiment populaire et au-delà de nos attentes. Donc au total de l'année de la session, en fait, on a reçu 1100 personnes qui sont venues assister à chacun des cours. Il y en a qui venaient à chacune des séances, il y en a qui venaient à certaines séances, et c'est libre, c'est ouvert, fait que les gens ont pas besoin de s'inscrire. Fait que les gens venaient pour je pense au cours de hockey philosophie à la Grande Bibliothèque. On avait beaucoup de gens, c'est un autre public à la Grande Bibliothèque, c'est un public un peu plus âgé. On avait quelques têtes grises, des têtes blanches aussi. Fait que c'est des gens aussi qui venaient nous raconter leurs souvenirs de quand je jouais au hockey dans la ruelle, ce genre de choses-là. Fait qu'il y avait un échange aussi intergénérationnel. Puis c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ce soit pas juste, justement, comme je disais tantôt, des gens du milieu académique, du milieu universitaire ou collégial, mais il y a des gens, il y a des professionnels, il y en a qui travaillent tous les jours, qui viennent à ces cours-là parce qu'ils ont juste envie de réfléchir sur des trucs, puis ils ont pas envie de s'inscrire, ils ont pas envie de faire un bac ou je ne sais trop, un certificat, mais juste de réfléchir à des thèmes qui les intéressent, puis voilà.
Alors, tu parlais du cours sur l'économie qui avait plusieurs séances. Est-ce que c'est tous les cours qui sont en plusieurs séances, ou il y a des cours qui sont plus sous un format atelier ou conférence d'une seule séance?
Non, on veut privilégier, parce que la nuit de philosophie, c'était justement une conférence. Là, ce qu'on veut faire, c'est d'aller plus loin. Fait qu'on a fixé un minimum de 4. Donc, la majorité des activités se déroulent entre 4 et 11 séances, là, si je prends la dernière. En moyenne, c'est 5-6 à chaque deux semaines, où là, on avait 11 séances là, qui étaient là.
Alors, en tout, c'est des dizaines et des dizaines de sessions là, à travers les quelques mois de l'automne et de l'hiver.
Voilà.
Wow, impressionnant. Et comment est-ce que vous faites apparaître tout ça?
Comment on fait apparaître tout ça? Ben, avec de la volonté et un petit peu de sous de temps en temps.
Et donc, ben justement, ce qui nous attire aujourd'hui, c'est que demain, mercredi, c'est le lancement de la programmation d'hiver. Ça va être au Bar Populaire, si je ne me trompe pas.
Bar Populaire, oui. C'est le 6584 Boulevard Saint-Laurent. À compter de 18h30, si vous venez, vous allez pouvoir tout savoir c'est quoi la programmation qui s'en vient pour l'hiver.
Alors, demain soir, c'est pas un cours, c'est juste dévoiler la programmation. Oui. Alors, on t'avait prévenu, on a effectivement prévu de te torturer un petit peu ce matin pour avoir quelques informations en primeur sur la programmation d'hiver.
Mais là, c'est un dévoilement là, parce que ça n'a pas été rendu public encore. Là. C'est tout chaud sorti des presses, cette histoire-là. Là.
C'est ça, une avant-première, on espérait vraiment, mais tu sais, en bas à gauche, c'est sûr, on a une avant-première sur l'Université populaire.
Absolument. Bon, ben, je me lance. Mais avec parcimonie. Donc, on va avoir 7 cours, en fait, pour la prochaine session. Je vous les passe en revue rapidement. On a un cours qui va être une réflexion sur la science. Je n'en dis pas plus. À partir du 23 février. Ça va se dérouler au Bar Populaire. Donc, où justement on fait le lancement demain, on va avoir un cours sur le théâtre qui va être donné par un professeur du département de sociologie de l'UQAM. Ça, c'est un partenariat avec le théâtre aux Écuries qui est au métro Fabre. Et il va avoir 4 cours qui vont être jumelés à 4 pièces qui vont avoir lieu pendant la session. Et chaque personne qui va venir assister au cours, c'est toujours gratuit, venir au cours de l'UPOP, ben en plus, ils vont avoir des billets pour aller à la représentation théâtrale qui suit. Donc, c'est le seul cours à peu près qui est pas aux deux semaines. Il va être une fois par mois, donc juste avant la pièce qui va être présentée. On a un cours sur le cerveau qui va être donné dans un café-bar Le Placard. Ça commence à partir du 15 février. On a un cours... je vais essayer de vous laisser deviner sans trop vous dire c'est quoi, mais c'est sur un enjeu environnemental d'actualité.
Gaz de schiste.
Je ne sais pas. Sans doute. Ah, peut-être.
On le saura demain.
On le saura demain. Avec plein d'invités. Et ça va être au Derniers Humains, un café bistrot sur la rue Saint-Denis. Et ça, c'est à compter du 7 mars. On a un cours d'introduction au son ambiant de la ville. Donc, réfléchir sur les sons. Ça, c'est à compter du 16 mars à la Galerie L'Espace Contemporain sur l'avenue Papineau. On a aussi un cours qui va être celui-là au printemps seulement, donc en avril et en mai, qui est un cours sur l'art, sur les beaux-arts, sur le marché international de l'œuvre d'art. Donc, c'est une réflexion aussi sur le capitalisme et les arts et tout. Et le dernier cours, ça va être c'est un cours d'histoire, c'est le premier cours d'histoire qu'on a à l'UPOP, sur un quartier de Paris. Je vous dis pas lequel. Voilà. Fait que on est axé peut-être moins sur des thèmes plus politiques, économiques, ce qu'on avait à la dernière. On se tourne vers d'autres choses, vers les arts, vers les sciences de la nature, vers des trucs un peu plus ésotériques, je pourrais dire. Fait qu'on se promène, on navigue, on va voir aussi la réponse des gens, mais c'est une belle programmation, puis on a vraiment hâte de la dévoiler officiellement demain.
Wow. Puis si je comprends bien, il y a aussi des salles de cours originales. Au lieu d'avoir un cours au AH538
oui, voilà,
qu'on se rappelle jamais, c'est toutes les cours ont lieu dans le même café, la même salle,
oui,
toute
voilà
la session.
En fait, ça permet aux gens aussi, il y a certaines places où il est permis de consommer, fait que les gens peuvent aller prendre un verre, prendre une bière, prendre un thé, un café. Écoutez, les cours sont toujours divisés en deux parties. Donc, une partie où c'est plus une présentation qui est faite par le professeur ou par l'invité. Puis, par la suite, c'est toujours une partie de réflexion. Donc, une heure de réflexion, d'échange avec les gens, avec le professeur, des questions, des échanges d'informations, des partages et tout. Donc,
Et la question quiz, est-ce qu'il y a des évaluations ou des travaux à faire pour la session
suivante? Non! Oh. C'est gratuit, libre et pas de devoir. Fait que ben, les gens, ils peuvent continuer à réfléchir chez eux s'ils veulent. On va pas les empêcher. Ça.
Et si on veut avoir plus d'informations, se joindre, vous appuyer, vous proposer un cours ou quoi que ce soit du genre?
Oui, mais en fait, le plus facile, c'est d'aller sur notre site web qui est le www.upopmontréal.com. On a aussi une page sur Facebook où on met beaucoup de trucs, on invite les gens, des rappels pour les activités aussi. Et si les gens veulent nous écrire, on a une liste de diffusion aussi. Ils peuvent nous écrire à info@upopmontréal.com et on va pouvoir les ajouter à notre liste de diffusion. Puis on envoie des courriels de temps à autre pour leur rappeler les cours et le lancement, par exemple. Voilà.
Alors, on rappelle, pour avoir tous les détails sur les cours que tu n'as pas nommés, évidemment.
Je n'ai pas nommé.
Demain soir, au bar populaire, tu peux nous rappeler les détails?
Oui, c'est le 6584 boulevard Saint-Laurent. On va avoir des petites bouchées aussi à vous offrir. On va présenter les cours. Et si vous voulez apporter un petit peu de monnaie aussi, on va faire une vente aux enchères avec des articles liés à la session dernière. Je ne vous en dis pas plus, mais amenez un petit peu de monnaie.
Et à quelle heure est-ce qu'on vous retrouve au bar populaire?
À 18h30.
À 18h30. Alors voilà, c'est un rendez-vous. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir été avec nous.
Merci à toi.
Alors, on était avec Philippe Marchand de l'Université populaire qui commence sa session demain soir. On va prendre une petite pause musicale avec le groupe Test for Logic, dont on vous parlera plus après, en vous parlant du forum sur la sécurité nationale et plutôt comment s'en libérer. Alors, restez avec nous sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Vous écoutez En bas à gauche.
I was born November 3rd, 1981. My father's middle child, my mother's only son. Well, parents and friends from places where the sun affect everyone differently. The reason people call me a place. People don't speak your tongue. I mean, where should I start? We got love in our hearts for each other. All brothers and different mothers. Everyone needs family, friends, and someone who's your lover. This world to build a true relation is hard. The perfect moment, the union of all that is God. The path we're on, the words is a song. The only words is a journey that we're on, even after. Is gone, but remains the spirit that is pure and strong, enduring energy that heaven sent to me. Sent to see this perfect moment, true reality. Who are you? Who are you in the world? This is true. Who am I? The sky, that's no lie. Who are we? We're the ones who can see. Who are we? We're the ones who can be. The people who are gonna set free. The world brings equality. A light built on quality. It's easy to see. You and me are the ones. By the one verse that the tongue of God creates when sung from the lungs, from the depths of breath is where all begun. What I'm saying is that we're all connected, that's why all creatures must be respected. Everything's a reflection, represented, we're all God's creation, manifested, a sensation. Housed in the temple, the physical, spiritual, and the mental, fundamental, to balance yourself, detrimental, ignoring your health. And how we're controlled, no knowledge of self, better know the days we're in, get them books off the shelf. The clock is ticking, bro. Approaching the 12 hour, the power's ours, reality is for you. Who are you in the world? Yes, it's true. Who am I? I'm the sky, that's no lie. Who are we? We're the ones who can see. Who are we? We're the ones who can be. The people who are gonna set free. The world bring equality. A life built on quality. It's easy to see. You and me are the ones.
We're the ones who gotta save it all. Here on earth, but before, let me break it down for ya. We're all part of one aura. We're the fauna and flora. God is before ya, around and inside you. Step into the mirror and check what your eyes do. Open them, have hope, my friend. As of now, days of being hopeless ends. Coexist and co-depend. Things to lift, I'll lend a hand. Cause it's mutual aid. Everyone benefits when community's made. To a few, getting paid, I'll make a profit.
hearts don't lie. Were we were the ones who could see, were we were the ones who could be, the people who gonna set free, the world bring equality, a light built on quality, it's easy to see, you and me are the ones.
Vous écoutiez We're the Ones de Tesla Logic sur les ondes de Radio Centreville 102.3 FM et vous écoutez En bas à gauche. Si vous vous demandiez pourquoi est-ce qu'on vous est passé du hip-hop en anglais ce matin, et oui, ce n'est pas à notre habitude, c'est parce que c'est Tesla Logic qui est un groupe en fait qui est l'union de deux rappeurs de, d'Ontario qui sont Testament et Illogic qui ont été tristement rendus connus par leur magnifique chanson Crash the Meeting qui est une chanson qui a été créée dans les élans de mobilisation vers le G20 à Toronto au mois de juin passé. Et ce clip-là, ce clip YouTube qui a été vu par des dizaines de milliers de personnes, a été utilisé dans toute la propagande pour dire que de méchantes personnes violentes, anarchistes, s'en allaient tout détruire. Et en fait, ce clip a été hautement utilisé et a fini par être utilisé dans le procès contre Testament et Illogic, qui ont tous les deux été poursuivi en justice et n'ont pas eu le droit en fait de se voir ou de se parler ou de communiquer ensemble sauf avec un avocat, donc ils n'ont plus eu le droit de faire de musique ensemble pendant des mois. Heureusement, au cours de l'automne, leurs accusations comme celle de 96% des gens ayant été arrêtés au G20 sont tombées faute de preuves, puisque la seule preuve qu'il y avait contre eux c'était un vidéoclip qui somme toute n'était pas si pire que ça, et on n'a pas le droit d'arrêter.
Et surtout de la musique. C'est si ça. On commence à criminaliser les artistes à cause des de leurs paroles.
Exactement, c'est le fait que on peut pas criminaliser des gens par rapport à leurs paroles. Et d'ailleurs, la chanson qu'on vient d'écouter, We're the Ones, est une chanson dont il vaut la peine de souligner le thème principal, qui est c'est après nous qu'on attendait. On pourrait le traduire parce que pour combattre un peu cette notion que quelqu'un va venir nous sauver ou que il faut attendre un grand moment dans l'histoire pour que les choses changent, et eux autres font un appel à un changement tout de suite et maintenant, et donc ils sont en tournée à travers le, l'Ontario et le Québec en tout cas en ce moment pour célébrer leur réunion post-trouble judiciaire.
Oui, en effet, j'ai pas toutes les dates avec moi, mais je sais qu'ils seront à Québec ce soir à l'AJT, la petite coopérative, et qu'ils seront à Montréal ce jeudi, donc le 27 janvier. Le spectacle va avoir lieu au Il Motore, qui est sur la rue Jean Talon, si je me trompe pas,
au près 179 du Jean Talon.
West. Voilà. Et donc, Tesla Logic vont jouer en compagnie de l'artiste et producteur Bougat, de Tutui et du collectif Micro Armé. Donc, trois autres groupes de musique de tendance hip-hop avec des paroles engagées socialement. C'est un spectacle intitulé « Beat solidaire contre la dérive sécuritaire » et qui est réalisé, en fait, qui est un spectacle bénéfice au profit du réseau de la Commission populaire. Alors, on vous annonçait plutôt en début d'émission qu'on allait vous parler du réseau de la Commission populaire parce que c'est un groupe qui organise cette année un grand forum populaire qui s'intitule « Quelle sécurité, notre sécurité ». Si vous voulez en savoir plus, on vous invite déjà à participer au spectacle qui aura lieu jeudi soir le 27 janvier où la programmation va être présentée en détail. Mais en attendant, Blandine, en quelques mots, qu'est-ce que le réseau de la Commission populaire, d'où est venue cette initiative?
Alors au début, c'était pas juste, c'était pas le réseau, c'était la Commission populaire. La Commission populaire, c'est une initiative qui est née de deux groupes, la coalition Justice pour Adil Sharkawi. On rappellera Adil Sharkawi et ce Montréalais qui en 2003 a été arrêté sous un certificat de sécurité et qui pendant 6 ans jusqu'en 2009 va vivre un enfer passant par enfermement, conditions de libération complètement folles du genre un GPS autour du pied. Toutes les jours de sa vie, être suivi à son travail par sa mère pour pouvoir exercer son travail, finir par perdre son travail. Donc sa vie a été gâchée pendant 6 ans. Et finalement, il y a eu gain de cause en 2009 et le certificat de sécurité est tombé. Et également Solidarité sans frontières, qui est elle-même une coalition, qui est l'union de beaucoup de groupes, qui est née notamment au moment de la lutte des Algériens contre la levée du moratoire sur les déportations, donc qui est un groupe basé sur la lutte pour le droit et la justice des personnes migrantes. Alors, à l'initiative de ces deux groupes est née la Commission populaire sur les mesures sécuritaires en immigration. Donc, c'est vraiment... Ça s'est né en 2006 selon l'idée que toutes les personnes qui luttaient avec des injustices relatives à l'immigration se trouvaient bloquées par l'imposition légale, mais aussi dans des changements de pratiques sur toute l'application du discours sécuritaire qui a toujours existé dans les États-nations, mais qui s'est retrouvé beaucoup plus intensément appliqué, beaucoup plus ouvertement appliqué évidemment après le 11 septembre 2001, donc qui est pas nécessairement une date de grand changement, mais de où est-ce qu'on voit quand même un durcissement. Alors face à cela, en mars 2006, il y a eu 3 jours d'audience. Ça s'est vraiment déroulé sur le style d'un tribunal populaire à l'image des tribunaux des peuples. Donc ça a été 3 jours d'audience. Il y a une trentaine de personnes qui ont témoigné. Ils ont témoigné sur toutes sortes d'enjeux, des menaces lors de leur processus d'immigration, des détentions arbitraires, des cas de torture à l'étranger faites par des agents canadiens de renseignement. Il y a énormément d'exemples. Il y a un gros rapport qui a été publié en 2007. Là, il y avait 9 personnes qui étaient les commissaires qui ont justement émis ce rapport. Par la suite, les gens qui ont participé à cette commission populaire se sont organisés sous la forme de réseaux pour continuer à appuyer des gens dans différentes campagnes, comme la campagne contre la déportation du prisonnier politique basque Ivan Apolosa Sancho. Et il y a beaucoup d'autres exemples, comme celui de monsieur Abou Soufiane Abdelrazik, qui est un homme qui est canadien, qui a été visiter sa mère malade au Soudan. Il a été détenu au Soudan sur ordre du Canada. Finalement, il est apparu qu'il n'y avait aucune preuve et il s'est retrouvé dans un vide juridique total où est-ce qu'il était réfugié à l'ambassade canadienne, qui refusait elle-même de lui émettre un passeport. Il s'est retrouvé sur des listes antiterroristes de l'ONU, une histoire kafkaïenne que si quelqu'un lui donnait de l'argent pour se payer un billet d'avion, cette personne-là se trouvait accusée de collaborer à un terroriste, même si l'État canadien l'hébergeait pendant ce temps-là. Ça a pris des années à pouvoir le rapatrier, ce qui est arrivé l'année passée grâce au travail du projet Retour au Bercail. Et donc, M. Abou Soufiane sera là aussi. Il vient de faire une tournée pan-canadienne pour parler de son expérience et il le fait une poursuite contre le gouvernement canadien.
Alors, si je ne me trompe pas, le réseau de la Commission populaire est constitué de d'autres groupes de travail, mais c'est malheureusement tout le temps qu'on a avant la petite pause publicitaire. Au retour de la pause, on parlera plus en détail du forum organisé par ce réseau de la Commission populaire qui se déroulera en février, les 4, 5 et 6 février 2020.
N'oubliez pas d'écouter Réalité diverse avec Alexandra Fioretet à Radio Centre-Ville 102,3 FM tous les vendredis matins de 9h à 10h. Une émission de toute la génération qui met à l'honneur différents artistes et créateurs. Alors à bientôt.
Notre culture, c'est notre âme, notre richesse, notre identité. Kiltipanon, tous les dimanches, de 19h30 à 20h, avec Jean-Aubert Bellarmin et Marie-Claudette Syriac sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. C'est la culture haïtienne.
La consommation d'alcool de ma femme me compliquait vraiment la vie. Je devais travailler dur juste pour maintenir une vie normale. Le conseiller d'aide aux employés de mon lieu de travail m'a dirigé vers les groupes familiaux Al-Anon. Je ne pensais pas que j'en avais besoin. mais cela a été une excellente suggestion. Êtes-vous préoccupé par la consommation d'alcool d'une autre personne? Vous seriez surpris de ce que vous pouvez apprendre de personnes comme vous dans une réunion des groupes familiaux Al-Anon. Composez le 1-888-4-ALANON.
Vous avez une soif inaltérable du savoir? Voyagez avec nous vers des contrées inconnues. Radio Centre-Ville vous emmène au cœur de l'action politique, sociale, culturelle et musicale du monde. Le meilleur de l'actualité communautaire, locale et internationale est à Radio Centre-Ville. Nous mettons l'accent sur le monde de Montréal. Syntonisez Radio Centre-Ville au 102,3 FM et sur le câble au 88,3.
Sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM, vous retrouvez en bas à gauche et on vous parle du réseau de la Commission populaire et de son forum qui aura lieu du 4 au 6 février prochain sur le thème « Quelle sécurité, notre sécurité ». Alors Maud, qu'est-ce que tu peux nous en dire?
Oui, ben peut-être faire suite premièrement à ce que tu disais, Blandine, lorsque tu expliquais que suite à la tenue de la Commission populaire en 2006 sur les mesures de sécurité, il y a d'autres projets qui sont nés pour soutenir des cas particuliers où s'appliquait de façon arbitraire et tout à fait antidémocratique l'agenda de sécurité nationale. Donc, c'est plusieurs groupes également. On pourrait nommer en exemple le groupe de surveillance du SRS, Service canadien de renseignement en sécurité, et ainsi d'autres groupes de travail de justice pour les migrants qui se sont mis ensemble et ont continué à faire ce qu'on appelle una consulta, donc une consultation publique sur les thèmes pour savoir quels sont les thèmes prioritaires que la Commission devrait aborder pour parler de façon plus large de l'agenda de sécurité nationale et non seulement des mesures dites sécuritaires en immigration. Donc, au terme de ce processus de consultation-là, il y a 5 thèmes qui sont ressortis. Donc, celui donc que je mentionnais de surveillance du Service canadien de renseignement en sécurité, le thème des listes noires mises à l'index, loi antiterroriste, etc., celui bien sûr des mesures sécuritaires en immigration qui reste présente, et les deux autres thèmes sont celui de l'industrie militaro-sécuritaire au Canada et le thème d'une en fait, une perspective historique sur la sécurité nationale, donc qui prendra en compte la criminalisation de la dissidence et la marginalisation des communautés. Donc, c'est autour de ces thèmes-là que va se dérouler le forum. C'est un forum populaire, donc c'est pas seulement des présentations et des panels, mais également des ateliers de réflexion pour évaluer les luttes, puis pour orienter nos stratégies et permettre un réseautage entre les groupes. Alors, comme disait Blandine, c'est du 4 au 6 février, ça va avoir lieu à l'Université Concordia. Mentionnons qu'il y a un service de garde gratuit sur place, qu'il y aura de la traduction simultanée français et anglais et possibilité de traduction chuchotée en d'autres langues. Il y a des repas gratuits qui seront servis et tous les lieux, sauf un panel, si je ne me trompe pas, sont accessibles pour les gens en fauteuil roulant. Donc, c'était quelques mots pour montrer l'énoncé d'accessibilité du forum. Donc, c'est bien sûr ouvert à tous et gratuit, pas besoin de s'inscrire. Alors, qu'est-ce qu'on a à la programmation? On a un panel le vendredi soir, le samedi matin et le dimanche matin. Et puis, les après-midi sont dédiés à des ateliers de réflexion. Alors, le vendredi soir, le forum populaire s'ouvre avec un panel sur la perspective historique sur la sécurité nationale. Alors, on va traiter d'une part, d'une façon historique, du contrôle colonial au Canada, donc beaucoup sur les communautés autochtones. D'autre part, il y a un intervenant qui va parler plus au niveau psychologique, peur morale, les paniques provoquées, toute la paranoïa qui est mobilisée par le gouvernement et relayée, bien sûr, par les médias de mars. Un autre intervenant sur le contrôle social via les frontières et l'internement. Et enfin, la question de la résistance à la répression au Québec, mais avec un point de vue historique. Donc, c'est différents intervenants, surtout du milieu académique, pour ce panel sur les perspectives historiques qui se déroulera le vendredi soir de 7h à 9h, donc 4 février. Le samedi 5 février, on commence par un grand panel intitulé SCRS, donc Service canadien de renseignement en sécurité, qui a besoin d'eux. C'est un panel qui va fournir, dans un premier temps, des éléments d'analyse historique du travail du SCRS, donc en commençant par expliquer le travail de la GRC et la création du SCRS. Les intervenants, les panélistes vont expliquer un peu les conditions qui ont mené à la création du SCRS et expliquer la crise actuelle de légitimité du SCRS et la mettant en comparaison avec la crise qu'a vécu le SCRS quand il s'est vu confronté à la GRC suite à l'utilisation de tactiques illégales envers le mouvement d'indépendance au Québec et la gauche plus générale. Et il sera également fait état de quelques témoignages en lien avec le ciblage effectué par le SCRS. Alors, vont participer à ce panel, entre autres, Adil Charkaoui, dont, Blandine, tu mentionnais l'histoire, qui a vu son certificat de sécurité tomber en 2009, et Gary Kissman, co-auteur de Canadian War on Queers, National Security as Sexual Regulation, et rédacteur également de Who's National Security. Bon, je nommerai pas tous les intervenants, je voulais seulement en citer deux. Le samedi après-midi, il y aura une visite guidée virtuelle du complexe industrio-sécuritaire de Montréal. Donc, une visite guidée virtuelle, ça veut dire, en quelques mots, que c'est une présentation PowerPoint, mais qui est pensée de façon interactive pour nous faire nous promener dans Montréal et voir les lieux concrets à Montréal où sont produits les technologies de sécurité nationale. Donc, autant les systèmes et véhicules de surveillance et les guidés, simulation et autres outils informatisés, privatisation de la sécurité et association des compagnies privées de sécurité, biométrie, instruments d'identification des personnes, etc. Le but, c'est de démontrer en filigrane un peu toute la privatisation et la sous-traitance qui est faite des activités de sécurité et des activités militaires par le gouvernement canadien. Le samedi après-midi, on aura des ateliers des groupes de travail, donc des ateliers de réflexion. Trois ateliers, donc vous aurez à choisir, soit en route vers un collectif d'histoire populaire à Montréal, comment procéder pour créer ce collectif d'histoire populaire, un autre atelier qui va faire la suite du panel sur les SCRS, donc pour amener les gens à faire des propositions concrètes de comment faire une surveillance adéquate des activités du Service canadien de renseignement en sécurité, et un autre atelier de réflexion qui va continuer le travail de cartographie du complexe industriel et sécuritaire de Montréal. Donc, c'était pour la journée du samedi 5 février. Enfin, le dimanche 6 février, on commence par un panel qui va regrouper plusieurs intervenants. Un panel sur la sécurité en immigration pour évaluer nos luttes, donc présenter ce qui a été fait jusqu'ici et faire une évaluation tous ensemble des défis, des obstacles, mais également des réussites qui ont été obtenues dans les luttes pour la justice en immigration. Donc, il y a autant des gens qui vont venir témoigner, dont Hassam Amrahi, qui a été arrêté en vertu d'un certificat de sécurité en 2001 et qui a également remporté sa cause en 2009, ainsi que des intervenants du monde du droit en immigration et des organisateurs, organisatrices communautaires. Enfin, de 1h à 3h, pardon, le dimanche 6 février, un panel intitulé « Liste antiterroriste canadienne, un mécanisme de contrôle social et politique » qui sera animé par le président de la Ligue des droits et libertés, Dominique Péchard, et Issam Al-Yamani, réfugié palestinien, écrivain et militant. Il y aura également des vidéos avec des extraits d'entrevues qui portant sur l'impact politique et communautaire du listage, c'est-à-dire le fait de mettre des groupes sur la liste antiterroriste. On parlera des FARC, du PKK, du cas d'Abou Soufiane Abderrazik, des Tigres Tamouls et de Babar Khalsa. Donc, le dimanche va se terminer également avec trois ateliers de réflexion, donc des groupes de travail. Un sur comment constituer une campagne médiatique sur les mesures de sécurité en immigration, comment répondre au rôle des médias. Deux, une campagne contre la liste antiterroriste canadienne. Non, en fait, je me suis trompée, il y a seulement deux ateliers de travail, pardon. Et le dimanche soir, en fait, le Forum populaire « Quelle sécurité, notre sécurité » se clôturera avec un souper de solidarité avec Mohamed Arkat. Donc, vous êtes tous invités à venir partager Un souper en compagnie des invités d'honneur, dont Mohamed Arkat, ça aura lieu de 6h à 8h le dimanche soir. Donc, c'était la programmation du forum « Quelle sécurité, notre sécurité » organisé par le réseau de la Commission populaire les 4, 5, 6 février 2011 à l'Université Concordia. Pour plus de détails, c'est très simple. Vous allez consulter le site web du réseau de la Commission populaire au www.commissionpopulaire.org. www.commissionpopulaire.org. Alors, on va faire une petite pause musicale.
Avec Tikenja Fakoli, Ouvrez les frontières. Une chanson de Tikenja Fakoli pour conclure sur cette présentation du Forum de la Commission populaire. Sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM. Vous écoutez En bas à gauche et on va écouter une entrevue qui a été faite par des amis d'une autre radio, pas si communautaire, plutôt étudiante, CISM, la radio de l'Université de Montréal, avec l'équipe de Bêtisserie qui a fait une entrevue avec Jean Lortie sur qui est de la CSN sur la question de la syndicalisation des couches tard. Une très bonne entrevue qu'on voulait vous partager aujourd'hui sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM. Alors on écoute sans plus tarder cette entrevue avec Jean Lortie sur la syndicalisation dans les couches.
Nous avons au téléphone le président de la Fédération du commerce de la CSN, monsieur Jean Lortie, qui vient nous parler aujourd'hui de la syndicalisation des employés du couche-tard. C'est ce petit couche-tard qui est désormais célèbre sur Iberville en face du métro. Bonjour monsieur Jean Lortie, comment allez-vous? Ça va très bien. Je voudrais savoir, il y a 8000 employés du couche-tard, il y en a 12 qui ont décidé de syndiquer et vous avez décrit en conférence de presse mercredi le 12 janvier que c'était dû à leurs conditions de travail qui étaient pitoyables. Bon, on sait que le couche-tard, c'est des heures de travail variables, hautement désagréables, un salaire minimum sans fin. Mais c'est quelles conditions qui a amené ces gens-là au ras-le-bol collectif au point de syndiquer?
Ben, moi, je voudrais d'abord, c'est le salaire. Il y a 2 ans, la compagnie couche-tard, parce que la récession venait d'arriver, a imposé un gel de salaire à tous ses employés. Même s'ils sont au salaire minimum ou quelques sous de plus que le salaire minimum, ils ont imposé un gel. On a su ce que ça a eu comme résultat, c'est de générer des profits colossaux de 300 millions dans une année en 2010 et leur permis d'attaquer la compagnie américaine qui est ici par une offre d'achat hostile. Alors, il y a d'abord les conditions salariales. Maintenant, ils sont payés pratiquement tous au salaire minimum du Québec. 9,50 parce qu'ils ont perdu l'avantage qu'ils avaient pour ceux qui étaient au-dessus du salaire. Les conditions de travail, ça comprend notamment la sécurité. Derrière un dépanneur la nuit, vous pouvez être braqué, vous pouvez avoir des clients difficiles et ils souhaitent avoir des mesures de sécurité, des caméras plus nombreuses, des systèmes d'alarme plus efficaces. Avoir des mesures aussi sur les horaires de travail, parce qu'évidemment, c'est très arbitraire. Le gérant, l'assistant-gérant peut décider que s'il devait accorder un congé, il peut vous le refuser. Ça fait partie aussi de ces questions-là. Il n'y a aucun régime d'assurance, il n'y a pas de congé de maladie, il n'y a pas de régime de retraite. Et malgré ce qu'on pense, dans un dépanneur, il y a beaucoup plus de monde qui travaille là depuis 3, 4, 5 ans qu'on peut le croire. Ce n'est pas seulement les étudiants qui sont là pour 2 semaines. Il y a beaucoup de gens qui, souvent parce que c'est des immigrants de première génération, c'est un premier emploi. Alors, c'est pour ces raisons-là que ces gens-là ont décidé de se syndiquer au métro Iberville la semaine dernière.
Et est-ce que vous prévoyez qu'il va y avoir un effet boule de neige sur les autres couche-tard? Parce que jusqu'à maintenant, on sait qu'il n'y a eu aucune réaction de la compagnie couche-tard. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils analysent un peu? Est-ce qu'il y a des menaces de fermeture ou ils attendent de voir comment les autres employés vont réagir?
Ah ben, c'est peut-être un peu de tout cela. Effectivement, la compagnie couche-tard, elle est très discrète. Alimentation couche-tard ne fait pas de commentaires autres que dire qu'ils vont analyser la situation. D'abord, ils n'ont pas de service de communication interne. Hein, ils contractent à des gens de l'extérieur la gestion de leur communication. Alors, il y a peut-être un enjeu là. Mais je dirais davantage qu'ils attendent de voir ce que la Commission des relations du travail va faire en termes d'émission d'un certificat d'accréditation. Et nous, on est en campagne active. On se promène. Je vous dévoilerai pas les détails de la campagne. Mais on est très présent dans les 50 couche-tards de la région métropolitaine de Montréal, Laval et Rive-Sud, Rive-Nord, pour faire en sorte d'augmenter le nombre d'employés qui pourraient être couverts par un certificat d'accréditation. Et ça serait boîte par boîte que ça se fait.
Est-ce que la fermeture du couche-tard de Saint-Mathieu-de-Belleuil en 2009 donne un peu comme une douche froide à tous les autres employés?
Je vous dirais qu'en 2009, couche-tard a fermé pendant que la campagne de syndicalisation s'annonçait. On n'avait rien fait encore et ils ont fermé pour briser dans l'œuf toute tentative de syndicalisation. Cette fois-ci, on assiste beaucoup plus à une campagne organisée où là, on a vraiment un dépôt légal en vue d'obtenir un syndicat CSN et ce couche-tard doit faire attention. La fermeture peut être envisagée. On a averti nos gens que ça pouvait arriver et ils en étaient bien conscients. Mais le choix qu'ils ont fait, c'est on n'en peut plus. On veut des conditions de travail plus décentes que celles qu'on a. Et la syndicalisation, pour nous, ça demeure la seule façon de le faire.
Et est-ce que vous avez l'impression que les suites, quand le dit couche-tard avait fermé, quand il y avait un processus de syndicalisation, il y avait un gros tollé citoyen, les gens se soulevaient contre ça, et ça a donné une mauvaise image à couche-tard. Donc, est-ce que vous pensez que vous pouvez un peu surfer cette vague-là pour vous aider?
c'est clair que Couche-Tard va faire face avec la CSN. On n'a pas l'habitude d'abandonner des batailles que notre monde mène. On n'a pas l'habitude non plus comme CSN de lésiner ses moyens pour accompagner les gens, pour faire en sorte d'obtenir un syndicat, d'obtenir des conditions de travail, et la campagne de syndicalisation, de visibilité va être grande. C'est clair que Couche-Tard est peut-être très prudent actuellement, tout comme vous le disiez un peu plus tôt, ils sont peu loquaces sur la place publique. Ils attendent de voir comment qu'on va agir. Mais nous, c'est une campagne qu'on vise. C'est un secteur qui est rentable. Hein. Couche-Tard, c'est un club de milliardaires. C'est pas une petite entreprise. C'est pas le dépanneur du coin appartenant à un propriétaire et sa famille. C'est une entreprise structurée, organisée, hyper rentable, alors qu'il a les moyens de payer, mais qui ne le fait pas, parce qu'il préfère acheter et croître sur le dos des employés qui, eux, sont pas considérés par cette entreprise. C'est clair que pour nous, on va mener cette campagne-là de haute main.
Mais bon, cette campagne-là, par contre, ne fait pas l'unanimité. Qu'est-ce que vous répondez à vos détracteurs qui affirment que le syndicat n'a pas sa place dans un commerce comme ça? Parce que, bon, comme vous le dites, il n'y a pas un si gros roulement d'employés, mais il y en a quand même beaucoup. C'est normalement un salaire minimum dont les gens disent, c'est quoi, on les paye 10 $ de l'heure, puis on va déjà leur enlever de l'argent pour leur cotisation syndicale. On pense que le gérant doit avoir une grande ascendance sur ses employés et que ça va venir nuire à tout ça, le syndicat.
Aux esprits chagrins, je leur dirais, le droit de se syndiquer, c'est un droit qui est fondamental, c'est un droit reconnu par les chartes. Que on travaille dans un dépanneur ou dans une usine de métallurgie, on a le droit d'avoir des conditions de travail et d'avoir un outil qui nous permet d'améliorer notre sort. Pas parce qu'on travaille dans un dépanneur que nécessairement on peut être traité comme des sous-employés et avoir des conditions de travail qui sont détestables. C'est ça le problème. Nous, on a dit, le choix qu'on a fait, c'est qu'il y a des gens mal pris, il y a des gens qui ont des conditions de travail d'un autre siècle et qui méritent d'avoir une boîte à outils qui leur permet de changer ça. Et il ne doit pas y avoir de fatalité. C'est sûr que j'ai vu les ténors de la droite proclamer leur indignation face à la demande de syndicalisation, mais on va les laisser hurler, ces gens-là. Mais dans la vraie vie, il y a du monde qui n'ont pas de conditions de travail et qui ont le droit comme citoyens d'en avoir. Il n'y a rien qui l'interdit de ce côté-là. Alors, c'est là le choix qu'on a fait comme CSN. C'est de dire, on va aller dans un secteur peu syndiqué ou pas syndiqué. On va tenter de dépanner ces gens-là, c'est le cas de le dire. Et on va tenter aussi d'améliorer leur sort dans une entreprise qui a les moyens de payer 300 millions de profits en 2010, un profit de 400 millions au premier semestre cette année. C'est une entreprise colossale. On ne vise pas à la détruire, ou bien au contraire, mais on veut que cette entreprise reconnaisse que ses salariés apportent une contribution essentielle à la richesse de cette entreprise, alors qu'on partage la richesse correctement.
Mais est-ce qu'il y avait des employés qui étaient extrêmement réticents à ça? Il y en a-tu qui a fallu convaincre puis qui se disaient non, c'est pas un syndicat, ça n'a pas sa place ici ou des trucs comme ça?
L'adhésion au syndicat, elle est massive, elle est sans équivoque. Je pense que la Commission des relations du travail, lorsqu'elle va rendre sa décision, va le constater. Il y avait vraiment une volonté des salariés de cette succursale de Couche-Tard, qui est située au métro Héberville, de se donner un syndicat. Ça, il n'y a pas aucun ombre d'un doute. On va faire la conviction, on va convaincre les gens dans les autres dépanneurs qui peuvent eux aussi syndiquer malgré s'il y aurait des tentatives d'intimidation de l'employeur. On va faire en sorte que ces gens-là soient protégés. Maintenant, il existe un syndicat chez Couche-Tard. Il faut qu'il soit reconnu. Et nos gens étaient fort acquis à l'idée du syndicat dans la place.
Quand vous disiez qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, que c'est des immigrés de première génération, que l'emploi est important, que c'est souvent le revenu principal de la famille, je me demande, ces gens-là, si le Couche-Tard ferme, ils vont se retrouver un peu à la rue. C'est quand même un grand jeu qu'ils sont en train de jouer où ils ont beaucoup à perdre. Est-ce que la CSN peut leur offrir une certaine sécurité si le Couche-Tard décide de fermer suite à leur volonté?
Alors, c'est clair que par le fait qu'on a déposé une requête légale, il y a des obligations légales. L'employeur peut fermer, mais c'est clair qu'on va poursuivre l'entreprise en vertu du Code du travail sur des pratiques antisyndicales, sur fermeture pour tentative de syndicalisation. Les chartes sont très claires là-dessus. Les décisions, les cours aussi. Il va y avoir un débat juridique important, puis on va accompagner le monde. Imaginez-vous, vous avez raison, les gens sont souvent de première génération, premier revenu de famille. Ils étaient prêts à prendre le risque de tout ça parce qu'ils n'en pouvaient plus des conditions de travail. C'est ça, fondamentalement, qui était en jeu à cette succursale-là en disant on n'en peut plus, il faut faire d'autres choses, on peut quitter ou on peut décider d'améliorer notre sort. Ils ont fait le choix d'améliorer leur sort et de se doter d'un syndicat.
Mais monsieur Jean-Lortie, je vous remercie sincèrement. On va suivre la cause de proche. On va suivre aussi les réactions de couche-tard qu'il va y avoir. Aussi, on va regarder ce qui va se passer dans les autres super dépanneurs parce qu'on sait qu'il y a plusieurs différentes chaînes qui se compétitionnent à Montréal. Alors, ça va avoir un effet auprès des employés ou qu'est-ce qui va arriver. Et, monsieur Jean-Lortie, président de la Fédération du commerce de la CSN, je vous remercie sincèrement pour cette entrevue.
J'avoue, je vous aime, mauvaise herbe. Vous êtes graine de voyous. On vous épure, mais la nature vous replante dans l'heure suivante, vivace, symbole de l'espoir le plus tenace. Quand vous percez, moi ça me dépasse, les surfaces les plus coriaces. J'aime beaucoup le chien d'en fou qui fourre partout ses longs doigts roux et qui s'accroche à notre insu quand on le pioche au-dessus. J'aime les arroches qui s'effilochent sur les roches et les monuments, comme la langue dans la poche après le dernier argument. J'avoue, je vous aime, mauvaise herbe. Vous êtes graine de voyous. On vous épure, mais la nature replante dans l'heure suivante ses myriades d'asclépiades, ses gros bourgeons de glouterons, tout son banquet sans couvert qui me donne le goût de me mettre au vert. Frêle lupiline, prêle coquine, toute copine me font de l'œil, j'en dis pas plus, quand je m'émerveille au coin des rues à la vue de l'or, du liseron, du laiteron, de ces couleurs qui resteront quand les miennes faneront. En faire crier les klaxons, c'est quand je vois pousser quand même sur les gazons anglo-saxons toutes ces espèces indigènes dont on ignore jusqu'au nom, mais on sait qu'elles sont sorties saines et sauves de la colonisation. Pour moi, chaque nouvelle repousse est signe de la rédemption. Après les brutes, il y aura la brousse broutant la civilisation.
C'était le slameur montréalais Ivy pour terminer cette édition de En bas à gauche. On finit rapidement avec l'anti-hebdo. Quelques événements à ne pas manquer. Ce soir, une soirée d'attaque Montréal avec Normand Mousseau sur le thème de son livre La révolution des gaz de schiste. Alors ça va être ce soir à 19h au bar populaire 6584 boulevard Saint-Laurent. Et au cas où vous vous trompiez, ne vous inquiétez pas, si vous y allez demain soir, ce sera le lancement de la programmation d'hiver de l'Université populaire dont on vous parlait en début d'émission. Également demain après-midi, mercredi dans l'après-midi, c'est les portes ouvertes de l'organisme Action Autonomie qui vous invite à découvrir ces nouveaux locaux. Action Autonomie qui vient en appui pour des démarches d'autonomie aux personnes qui ont été psychiatrisées. Alors vous pouvez les rencontrer au 3958 d'Endurant, 3e étage. Je vous recommande d'aller voir le site web actionautonomie.qc.ca. À ne pas manquer, jeudi soir, Beat solidaire contre la dérive sécuritaire, le show de la commission populaire. Alors ce jeudi, à compter de 20h, au Il Motore, la salle de spectacle 179 Jean Talon Ouest, 10$ à la porte afin de financer le forum dont on vous parlait plus tôt, qui sera gratuit du 4 au 6 février sur le thème « Quelle sécurité, notre sécurité ?». Vendredi 28 janvier, soutenir la mobilisation contre l'industrie minière toxique au Mexique. C'est une mobilisation devant le consulat mexicain. Alors, vous êtes invité à midi, vendredi, au 2055 rue Peel à Montréal pour soutenir la mobilisation citoyenne des Los Cabos, Todos Santos y La Paz dans l'état de Baja California Sur. Donc, les citoyens mexicains préoccupés par le sort de leur pays font appel aux associations, groupes, organisations et citoyens résidents au Canada pour dire non à l'industrie minière. Alors, c'est une mobilisation et également, si vous êtes dans le coin, eh bien, séparez-vous en deux et allez à la vigile du Paju à compter de midi, comme tous les vendredis, au coin des rues Sainte-Catherine et McGill contre l'apartheid israélien. C'est ce qui conclut cette édition de En bas à gauche. Retrouvez-nous sur notre blog enbasagauche.wordpress.com. Vous pouvez également nous écrire enbasagauche@riseup.net et surtout sur le blog, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager le matériel enregistré. Si vous avez vous-même une émission, sentez-vous bien à l'aise de le reproduire. Alors, c'est ce qui conclut cette édition. On vous laisse sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec le bel âge et on vous retrouve la semaine prochaine avec d'autres activités, enjeux et mobilisations de Montréal et d'ailleurs.
Cherchez-vous un travail immédiatement? Travailglobal.com. Appliquez aujourd'hui, travaillez demain. Travailglobal.com ou 514-666-1562. Secrétaire, journalier, manufacturier, voyez les emplois sur travailglobal.com ou 514-666-1562.
Non-stop sur les Antilles. Une émission de variété. Un plaisir à la découverte. Une émission à savourer sans modération.
Musique, information, éducation, histoire, débat.
Non-stop sur les Antilles.
Mardi, minuit 30. Sur Radio Centre-Ville, 102,3 FM.
C'est un rendez-vous.
Bonjour, ici Dougie G, l'animateur de Flipside. Une émission destinée à la culture noire le samedi de 15h à 16h à Radio Centre-Ville 102.3 FM.
Le légendaire club Balatou fête ses 25 ans et à l'occasion de cet anniversaire, 3 soirées de concerts gratuits vous sont offertes les 25, 26 et 27 janvier prochains. Au programme, de nombreux plateaux d'artistes, des anecdotes et des témoignages qui rendront hommage à la plus célèbre discothèque tropicale et scène musicale world de Montréal. Pour ne rien manquer de cette grande fête de la musique du monde ouverte au public, visitez le www.festivalnuitdafrique.com.
Radio Centre-Ville, depuis 35 ans, nous mettons l'accent sur le monde de Montréal.